Même, donc, on a dit que dans cette lettre, chapitre 32, qu'on a commencé la semaine dernière, l'Admour Hazaken explique l'importance de devenir autonome dans son judaïsme. Une lettre très très importante, ça veut dire après tout ce qu'il a expliqué dans les lettres d'avant, dans lesquelles il a expliqué l'importance de donner la tzedaka, mais le problème c'est que dans toutes les lettres d'avant, c'était à chaque fois, on était à chaque fois passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoyait une demande de courrier pour demander de donner la tzedaka, ou pour rappeler de faire une mitzvah, d'accord? Pas que la tzedaka. Et les chassidim faisaient la mitzvah. Et là, la dernière lettre du Tania, c'est pas par hasard, c'est une lettre dans laquelle l'Admour Hazaken, il dit, maintenant qu'on vous a expliqué comment faire et qu'on vous a encouragé de faire la mitzvot, maintenant il faut à un certain moment passer le flambeau. Donc on a expliqué pas mal de notions la semaine dernière, que je vais revenir dessus tout de suite rapidement, quelques minutes. On a expliqué d'abord la première chose, la différence entre ma'asé et... T'as trompé là.
Oui, mais parce que qu'est-ce qu'on fait des autres?
Mais non, laissez les autres. Les autres, il en a besoin pour autre chose.
Ah bon? Toujours. Ça sympa, moi.
Mais une troisième aussi, au milieu.
Et unique, hein.
Non, parce qu'elle avait en plus. Je lui dis, j'ai mais. Non, c'est pour les autres, il le prend à l'envers.
Il y en a 10. Les autres, je lui ai dit, je voulais lui donner, comme ça, s'il a besoin pour autre chose, qu'il a besoin. Il est unique. Alors,
on sur le côté comme ça,
voilà. Donc on était en train de... T'es avec nous pour le côté, Tania ?
Ouais.
Alors, donc, on était en train de dire que dans la semaine dernière, on a expliqué la différence qu'il y a entre ma'asé et me'asé. D'accord ? Pour ceux qui se rappellent. C'est quoi ma'asé ? C'est quoi me'asé ? Ma'asé en hébreu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ?
Faire.
C'est quoi ? L'action.
L'action.
Et me'asé, ça veut dire quoi ?
Faire, faire.
Faire, faire. D'accord ? Donc on a expliqué que jusqu'à maintenant, de quoi on parlait ? On parlait de ma'asé. C'était du passif. Ça veut dire que, il y a quelqu'un qui m'a encouragé de faire une mitzvah, il y a quelqu'un qui m'a branché sur une mitzvah, il y a quelqu'un qui m'a allumé la flamme, comme l'exemple, l'image qu'on a donnée la semaine dernière, et je l'ai fait. D'accord? Donc, mais concrètement, c'est pas quelque chose que moi j'ai fait faire. C'est pas venu de moi. C'est venu de quelqu'un qui m'a encouragé. Concrètement, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est venu de quelqu'un d'autre. À un certain moment, dit l'Admour Hazaken, il faut passer à la phase 2. C'est quoi la phase 2? C'est dans laquelle c'est plus que tu fais suite à d'autres personnes qui t'ont encouragé. C'est que tellement tu es convaincu du projet que c'est toi-même qui fais faire d'autres personnes. C'est toi-même qui encourage d'autres personnes. Faire, faire. Donc ça, il a expliqué juste deux secondes. Je reviens sur ce qu'on a expliqué. Je rappelle rapidement. Il a expliqué la semaine dernière à l'Admour Hazaken. Il a dit que ça, c'est ce qu'on appelle le me'asé. Me'asé, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire, faire. Ça, c'est une première notion qu'il a expliqué la semaine dernière. Deuxième notion qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est la différence entre le mot tzedaka, tel qu'on peut l'exprimer bonsoir, en tant que Zahar et en tant que Nekeva. Mm. C'est-à-dire, on a expliqué qu'il y a une machloquette. Enfin, c'est pas une machloquette, mais c'est pas vraiment défini chez les grammairiens. Donc, enfin, chez ceux qui font la grammaire en hébreu, d'accord? Chez ceux qui font le dikdouk, chez les medakdekim, à savoir, est-ce que le terme tzedaka, est-ce que tzedaka c'est un terme au masculin ou au féminin? D'accord? Et c'est pas tranché. Pourquoi c'est pas tranché? Parce que nous, quand on veut savoir si une chose est masculin ou féminin, c'est quoi notre source? C'est la Torah. Donc on voit dans les psukim dans la Torah, quand la Torah a employé ce terme, est-ce qu'elle l'a employé au masculin ou au féminin? Le problème, c'est quoi? C'est que dans la Torah elle-même, des fois le terme tzedaka est employé au masculin, des fois il est employé au féminin. Alors il a posé la question, il a dit comment ça se fait? Il faut se décider, soit c'est masculin, soit c'est féminin. D'accord? Il y a certains mots dans la Torah comme ça, comme le mot Shabbat. Ça, j'en ai pas parlé la semaine dernière. Comme le mot Shabbat. Shabbat, c'est masculin ou féminin? D'accord? Il y a les deux. Quand on voit dans la Torah, il y a les deux. Des fois c'est écrit Shabbat Echad, comme Shabbat Echa. D'accord? On dit Tishmeru Shabbat Echem, d'accord? Donc ça veut dire c'est un zahar, c'est un masculin. Mm. D'un autre côté, d'accord? Des fois c'est écrit Shabbat Hi Lachem.
Alors bon, c'est féminin.
Donc là Hi c'est féminin, Hu c'est masculin, d'accord? Hu Olech c'est masculin, Hi Olechet c'est féminin. Donc des fois c'est écrit Shabbat Hi Lachem, donc ça veut dire que le Shabbat est féminin. Des fois c'est écrit, d'accord, que c'est Shabbat Echem, pas Shabbat Echen. Shabbat Echem, avec un même à la fin. Bon, on va pas rentrer dans les règles grammaticales, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a pas mal de mots dans la Torah, c'est ce qu'on appelle les exceptions, que des fois on peut les utiliser au masculin, des fois au féminin, selon le contexte, on peut modifier. Donc la question qu'il a posée, il a dit comment ça se fait que le terme de tzedaka, et on sait que le tzedaka c'est pas une simple mitzvah, c'est une mitzvah qui est la mère de toutes les mitzvot, comment ça se fait que la mitzvah de tzedaka, des fois on va la conjuguer au masculin, des fois on va la conjuguer au féminin. Et la réponse qu'il a donnée, il a dit c'est très simple. Il a dit, il y a une tzedaka mâle et il y a une tzedaka femelle.
Et oui.
Ça, c'est la réponse de la semaine dernière. C'est quoi la tzedaka femelle? C'est quoi la différence fondamentale entre un homme et une femme? D'accord? C'est que l'homme, c'est un émetteur, la femme, c'est un récepteur. Donc, c'est la même chose dans la vie. C'est-à-dire, dans la vie, il y a de deux choses l'une. Soit tu es passif, soit tu es actif. Soit tu es émetteur, soit tu es récepteur. Après, en étant récepteur, tu peux toi-même devenir émetteur. Mais par exemple, voilà, ce soir, je suis venu à un cours de Tania. Pourquoi je suis venu au cours de Tania? D'accord? Il y a deux options. Soit parce que je suis émetteur, de moi-même, j'ai décidé que je veux venir. Soit parce que je suis récepteur, quelqu'un m'a encouragé à venir. Les deux sont bien. Mais il y a deux options possibles. D'accord? Émetteur, récepteur. Et donc, il a expliqué, il a dit, c'est pas par hasard que la tzedaka, d'accord? Bonsoir. C'est pas par hasard que la tzedaka, on l'emploie des fois au terme en tant que masculin, des fois en tant que féminin. Pourquoi? Parce que ça dépend. Pourquoi t'as donné la tzedaka? Si j'ai donné la tzedaka parce qu'il y a quelqu'un qui m'a encouragé de la donner, dans ce cas-là, on parle d'une tzedaka au masculin ou au féminin?
Mal.
Ah non.
Bah, il a donné, c'est pas récepteur. Récepteur.
Imagine-toi que tu m'as encouragé à donner la tzedaka.
Ah, moi,
et que suite à ton encouragement, moi, j'ai donné la tzedaka.
Voilà.
Ah, donc la tzedaka que moi, j'ai donnée. Moi, je monte sur moi, là.
Mais toi, elle est...
Je comptais pas donner la tzedaka. Mais tu viens me voir, tu me dis...
Moi, elle est quoi? Elle est mal?
Écoute, je parle de moi, maintenant. Je te dis, imagine-toi que je comptais pas donner la tzedaka. Oh, je connaissais même pas la cause, une certaine cause. T'es venu me voir, et tu m'as dit, Mandy, tu m'as encouragé à donner la tzedaka pour une cause. Mais je comptais pas le donner moi de moi-même. Tu m'as encouragé. Donc là, on parle d'une tzedaka mâle ou d'une tzedaka femelle. Je l'ai donné en mode émetteur ou en mode récepteur? C'est récepteur. Parce que de moi-même, je l'aurais pas donné. J'ai reçu des instructions ou un encouragement de quelqu'un, suite à quoi j'ai fait. Donc on parle d'une tzedaka femelle. D'accord? C'est une tzedaka importante qui sera pour mon mérite quand j'arriverai en haut, etc. Mais là, maintenant, il faut passer à la phase B après. C'est quoi la phase B? La phase B, c'est qu'après, il faut devenir soi-même celui qui encourage les autres. Donc là, on parle plus d'une femelle, on parle d'un mâle.
Pourquoi on fait cette différence entre émetteur
et récepteur? Voilà, c'est ça.
C'est quoi le
c'est
très
moi,
simple. Parce
moi,
que
les mâles.
Le problème qu'il va expliquer ici dans cette lettre, c'est que très souvent, les gens, hein, ils attendent de recevoir des instructions.
Ah, d'accord, c'est vrai.
Tu comprends? Pas que, mais.
Je dois être autonome, quoi.
Voilà. La semaine dernière, on n'a pas expliqué l'aspect autonome. J'ai juste parlé du sujet, mais on n'a pas développé. C'est comme ça. Les gens, ils attendent de recevoir des instructions. Mais pas, c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif.
Moi, je veux savoir, c'est que. On avait bien dit aussi que la personne qui est encouragée, elle fait aussi la mitzvah.
Oui.
Maintenant, cette mitzvah, elle sera considérée plus vis-à-vis de moi, mâle ou femelle?
Non, toi, c'est autre chose. On parle de celui qui a donné la tzedaka.
Non, mais oui,
c'est autre chose. Toi, t'as fait Avat Israël, c'est une autre mitzvah.
Mais t'as pas fait de tzedaka.
T'as pas fait de tzedaka.
Si, on avait dit que.
Non.
T'as une part, mais.
T'as une part, t'as encouragé la tzedaka, mais t'as pas fait de tzedaka.
Non, t'as rien mis.
D'accord?
C'est surtout fastoche.
C'est important. Non, mais c'est important de comprendre ce qu'il explique ici.
Parce que. C'est le cas par personne interposée.
Il explique ici ce qu'on va expliquer dans cette lettre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais après, Bezrat Hashem, je pense qu'on aura le temps, étudier une partie du chapitre 41, qui est à peu près, le chapitre 41, on va pas le faire maintenant. Mais c'est, voilà, c'est page 104, je crois, hein. Attendez, je vais vous dire. Non, page, un peu plus loin. 110. D'accord, près de 200 pages en arrière. Là-bas, il explique cette notion. Au bout d'un certain temps, il faut devenir autonome. On peut plus attendre de recevoir toujours des instructions. Il y a des gens qui toujours, tant qu'ils n'ont pas d'instructions, ils font pas. Mais c'est pas méchant, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Que nous, on a l'habitude de recevoir des instructions. Il va expliquer, il va dire non. Il va dire ça, sinon c'est comme si le mari fait le rôle de la femme et la femme fait le rôle du mari. D'accord? Le rôle d'une femme, c'est de recevoir des instructions. D'accord? Et le rôle du mari, c'est de donner des instructions.
Il y en a pas, là! Malade! Et t'enregistres en plus!
Non, j'ai mis la main devant.
Et est-ce que c'est un moyen?
Tu le dis à la maison aussi, ça?
Tu sais qu'on avait vu aussi dans les lettres qu'on avait dit que chacun est là pour faire
quelque chose.
Marcel. J'expliquais après.
Tu seras à la maison.
On avait dit.
Ça pour eux, chérie.
On avait dit qu'il y avait chacun, avait une mitzvah à faire.
Oui.
À se corriger.
Oui, ça.
Est-ce que ça fait parmi.
Ça change pas! Ça
non,
change.
De faire et d'être méasser.
Non, ça change pas. Sur toutes les mitzvot, il faut s'habituer progressivement à devenir méasser. Ça veut dire qu'il faut plus attendre de recevoir les instructions. Il faut devenir autonome. On peut plus attendre toujours de recevoir les instructions.
Ça s'appelle prendre l'initiative.
Non, c'est comme ça qu'il va expliquer ici. Donc dans les mots. Alors, j'étais en train de dire que le rôle d'un homme, c'est de donner des instructions. Maintenant, bien sûr, ça veut dire comme ça. Concrètement, celle qui va faire tourner la maison, c'est la femme. Celui qui donne la direction générale du couple, c'est le mari. D'accord? Et quand on mélange les rôles après, c'est pas bon. Celui qui amène l'autorité, celui qui amène la structure de la maison, la structure. D'accord? Après, maintenant, comment ça va se passer, etc. C'est la femme. Maintenant, ceci dit, la Gemara a dit que Ishak Shera Osar et Sanbala. On dit qu'une femme, elle peut créer la volonté de son mari. Ça, c'est son problème. Si elle peut pousser son mari à vouloir quelque chose. Mais concrètement, qui c'est qui donne la structure? C'est le mari.
Si elle peut faire faire.
Si d'accord?
Elle peut faire faire qu'elle lui après.
Non, ça veut dire que, c'est-à-dire que la femme, avec la force des choses, elle peut montrer à son mari que la réalité n'est pas comme ce qu'il croit. Donc, il faut modifier. Et le mari, il va analyser, il va comprendre, et là, il va faire la structure. Mais on est obligé d'avoir chacun sa part, sinon ça marche pas. Quand on mélange les rôles après, quand c'est le père qui joue le rôle du gentil et la mère qui joue le rôle de la structure, les enfants ils suivent pas parce qu'ils ont besoin d'avoir un rôle, des rôles bien définis. On a fait il y a pas longtemps le cours sur Kivud Avem, ça fait 2 semaines, d'accord, Shabbat après-midi. On a expliqué que la Torah, pourquoi la Torah, hein, la Torah nous dit qu'on a l'obligation de respecter et de craindre. Donc respecter c'est plus par l'amour et craindre c'est plus par la crainte. Son père et sa mère. Et Rashi nous fait remarquer que la Torah, elle a dit, tu honoreras ton père et ta mère, et tu craindras ta mère et ton père. Alors Rashi pose la question. Il dit pourquoi? Pour respecter, pour honorer, tu as dit tu honoreras ton père et ta mère. Alors que pour craindre, tu as dit tu craindras ta mère et ton père. Pourquoi inverser les rôles? Et Rashi dit c'est très simple. Rashi dit c'est très simple. Il dit parce que naturellement, les gens, ils respectent leur mère et ils craignent leur père. C'est la nature des choses. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que la Torah te dit ce qui est plus difficile pour toi en premier. Elle te dit, tu honoreras, qui elle a dit en premier? Ton père et ta mère. Parce que instinctivement, qui tu honores en premier? Ta mère. Ton père, c'est plus la crainte. C'est une relation de crainte, c'est pas une relation d'honneur. Donc c'est pour ça que la Torah te dit, tu respecteras ton père et ta mère. Maintenant, pour la crainte, instinctivement, on sait que de qui on a le plus peur? Du père ou de la mère? Hein, ça dépend.
Non, on craint la mère. D'accord. Par amour, pas pareil.
Tu crains. Donc, de qui on craint le plus? Du père. C'est pour ça que la Torah te dit, Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme devra craindre sa mère et son père pour te dire, ton père, on sait que tu le crains. Maintenant, c'est la mère qu'il faut rajouter. C'est pour ça qu'on te le dit en premier. Pour expliquer quoi? Pour dire ce que je voulais expliquer par là, c'est qu'il y a une structure. Même la Torah accepte ça, qu'il y a une structure, qu'on peut pas modifier les choses. Bon. Maintenant, on va parler de comment justement devenir autonome. C'est ça, c'est bien beau de le dire, devenir autonome, mais comment devenir autonome? D'accord? Est-ce qu'on a des conseils pour ça? Pour comment devenir autonome? Surtout quand on a toujours l'habitude de recevoir les instructions et d'attendre ce que le rabbin va dire, et d'attendre ce qu'il va dire, etc. À un certain moment, tu me dis, bon, écoute, il faut commencer à réfléchir à toi-même. Je dis, j'arrive pas.
C'est un morceau qui n'a rien de juif, ce que tu es en train de dire là.
De quoi?
On est en train de parler de midotes.
Ah, non,
humaines.
Non, c'est là, c'est le Tania.
Oui,
c'est le Tania, oui,
bien sûr. Oui, mais ce sont des midotes humaines. Ah, oui, mais ça vaut pour tous.
C'est le Tania, oui, d'accord, ouais. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, d'accord, c'est comment arriver à ça? Comment arriver à devenir autonome, dans notre judaïsme? Ça veut dire qu'en vérité, on expliquera plus tard hein, que c'est un petit peu. Qu'est-ce qu'attendent les parents d'un enfant quand on éduque nos enfants? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'ils soient autonomes. Maintenant, alors attendez. En vérité, au fond de nous, on attend que nos enfants soient autonomes. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Dès qu'une personne prend son autonomie, il y a toujours des accros. Parce que qui dit autonomie dit quoi? Dit qu'il va se comporter comme il veut se comporter, comme l'enfant veut se comporter. Et c'est pas forcément comment moi je veux qu'il se comporte.
Égal, surtout, peut-être, tu vois.
Donc, l'autonomie, c'est toujours compliqué. Mais concrètement, quand tu demandes aux parents quelle est la vraie volonté des parents, c'est quoi? C'est que l'enfant soit autonome. Donc, c'est la même chose. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il sait, proche de notre introduction, Akadosh Baruch Hu, il sait que quand on va essayer de devenir autonome, quand on arrête de recevoir des instructions sur chaque chose, forcément, on va faire des erreurs. Ça, c'est comme si t'es un employé, tu lui dis tout ce qu'il faut faire, et tu lui dis, écoute, débrouille-toi maintenant, tu te débrouilles, allez, lance-toi. Tu sais qu'il va faire des erreurs. C'est évident qu'il va faire des erreurs. Parce que tant que tu lui donnais les règles, exactement quoi faire, tu lui donnais son cahier des charges qu'il doit faire, ben, il peut pas faire d'erreur. Mais là, quand tu l'envoies, tu sais qu'il va faire des erreurs. Mais pourquoi ça te dérange pas? Parce que tu sais que t'es en train de le former. Donc c'est pour son bien. Donc c'est ça ce qu'il va dire ici aussi. Il va dire deux choses. Donc il va dire, il faut se former à devenir, à être autonome dans la Torah et les mitzvot. Et il faut pas avoir peur des erreurs. Il y a des gens qui ont peur des erreurs. Ils disent, j'ai peur, moi si j'ai peur de... Il dit, c'est pas grave. Il y a une tira du rabbi, un commentaire du rabbi, dans lequel le rabbi dit comme ça. Le rabbi dit, les gens, ils pensent qu'un enfant, quand il devient bar mitzvah, il devient responsable à 100%. D'accord? Non, mais c'est vrai. Tout le monde, on a toujours compris qu'un enfant, d'ailleurs, toujours le discours qu'il fait, il dit, je suis devenu, majeur et responsable. Ah, ça fait beau. D'accord? Seulement concrètement, tu prends un gosse, qui n'avait pas l'obligation de faire toutes les mitzvot. Il n'avait pas. Avant 13 ans, il n'avait pas 13. Il n'a pas l'obligation. Tout d'un coup, tu lui balances 613 mitzvot sur la tête. Il pourra pas les faire tout d'un coup. C'est sûr qu'il va se planter. C'est sûr que il va essayer, qu'une partie ça marchera, une partie ça marche pas. D'accord? Alors, exactement. Écoute bien ce que le rabbi dit. Le rabbi dit que la Torah a prévu ça, et que les premières années après la bar mitzvah, étant donné qu'il est en phase d'éducation.
Jusqu'à 20, en vérité.
D'accord? Alors non, on donne même pas jusqu'à 20.
Jusqu'à 20, le tribunal.
Vous allez voir où je vais en arriver après. Le rabbi l'explique là-bas dans ce commentaire, un grand classique du rabbi. Il dit que, étant donné que la personne est quelque part en entraînement, pour une mitzvah, même s'il fait des erreurs, ces erreurs sont considérées comme des erreurs d'entraînement. Et donc, ça lui va compter. Alors, justement, le rabbi, il dit, quand on parle des erreurs. Je parle pas des erreurs qu'il a fait exprès. Je parle des erreurs qu'il n'est pas habitué. Par exemple, imagine-toi un gosse, il n'a pas l'habitude de dormir à 11h du soir pour faire son mari. Il va voir une tête, tu lui dis, il faut dormir à 11h du soir pour faire son mari. Il va le faire une fois sur deux, et encore.
Il regarde la télé.
Il n'arrivera pas. Tu peux pas lui demander d'un coup de tout faire.
Ça, c'est un oubli de mitzvah.
D'accord. Eh ben, justement, ce que le rabbi, il explique, c'est que tous ces oublis de mitzvot, étant donné qu'il est en entraînement, c'est pas considéré, on lui compte pas ça. Ce sera pas comptabilisé.
C'est apprentissage.
C'est apprentissage.
Oui, il a fait
l'entraînement. Mais des grosses
avérotes. Et deux secondes. Et donc, et le rabbi, là-bas, il explique, proche, je vous parle de ça, parce que tout de suite, on va commencer dans les mots. Il dit qu'il en est de même quand on fait teshuva. D'accord? C'est un très, très grand chidouche. Hein. Il dit, il en est de même quand on fait teshuva. Quand une personne n'était pas religieuse. D'accord, ne ratez pas ce que je veux dire, c'est dommage. Hein.
Mais non.
C'est un très très grand chidouche. Quand une personne fait teshuva, il a déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans. D'accord, il fait teshuva. Concrètement, tu peux pas lui demander du jour au lendemain de tout commencer, de faire toutes les mitzvot. Ça va prendre du temps. C'est sûr que ça va prendre du temps. Et ben, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Le rabbi dit, tant qu'il essaye de faire les mitzvot, même si à chaque fois il va se planter, il est considéré comme si qu'il est en apprentissage. Comme si qu'il est en entraînement.
C'est quoi la durée?
D'accord? Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. La durée, c'est chaque personne. T'as des gens, ils peuvent s'entraîner en un an. Moi, j'ai connu une personne quand j'étais à l'Yeshiva. En un an, il est parti de zéro. Un an plus tard, il était prêt à être chez Shiva.
Ah ouais?
Mais c'est pas seulement une question d'intelligence. C'est une question d'être capable de s'habituer, de s'adapter. Il faut une force de caractère énorme. Je l'ai connu, hein. C'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Non, il était capable de venir au Shishiva. C'est-à-dire qu'il t'ouvrait n'importe quel gamara, il développait, enfin, comme si qu'il avait fait ça depuis 30 ans.
Il savait traduire.
D'accord?
Il savait pas parler.
Il était très intelligent, mais c'est pas parce que, à mon avis, c'est pas l'intelligence qui l'a aidé. Rien du tout. Zéro. Rien. Zéro. Je l'ai vu de mes yeux. Il savait même pas lire l'hébreu. Je veux te dire plus que ça. Il savait pas qu'il était juif. Par toute une histoire d'Ashgara Pratit et des shluchim du rabbi qui l'ont découvert, le gars il est venu. Dès qu'il a découvert qu'il était juif, il est venu à la yeshiva, il a dit apprenez-moi la Torah. À la yeshiva de Bruno. La yeshiva de Bruno, là. Un an plus tard, il y a des gens qui sont occupés de lui.
D'accord.
Un an plus tard, le gars, c'est comme si qu'il était là toute sa vie dedans. D'accord. J'ai perdu cette trace. Je sais pas ce qu'il est devenu. Il doit être en Israël, à mon avis. Si je ne l'ai pas vu en France, il doit être en Israël. Je n'ai pas vu en Amérique non plus. Ouais, il doit être en Israël. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même notion qu'on a expliquée par rapport à l'enfant, que quand un enfant il est bar mitzvah, c'est pas parce qu'il est bar mitzvah que maintenant il est responsable de tout ce qu'il fait. Ça prend du temps. Ça se fait, les choses ne sont pas en un coup. Pourquoi? Parce que l'autonomie, ça prend du temps. Avoir l'autonomie, ça prend du temps. Le rabbi, il explique, c'est la même chose pour la teshuva. Quand on fait teshuva, avoir l'autonomie dans le judaïsme, ça prend du temps. Et des fois, c'est possible que sur certains éléments, on n'aura jamais une réelle autonomie. Ça prendra du temps. Mais en tout cas, ce qu'il explique ici, c'est que c'est très important de chercher à avoir le plus tôt possible son autonomie. Une autonomie, ça veut dire commencer à essayer de voler de ses propres ailes. De passer du stade de maasé au stade de méasé. D'accord? Au lieu de faire de manière passive, de devenir actif. Ok, on va lire dans les mots tout ça. Alors, on va prendre dans la page 300. En fait, c'est 305. Aval. Au milieu de la page, Aval.
C'est avec les étiquettes, hein.
Ah oui, où va la clé? Ah, il en restait un peu.
Au milieu, c'est moi.
Monsieur Bispute, il a commencé à les coller un peu partout, ouais, mais tiens, il en reste un petit peu.
Au début,
tu peux l'utiliser, c'est des d'autres livres, enfin. Bon.
Ok.
Voilà. J'ai gardé le modèle aussi de l'ordinateur. Alors.
Bon, on peut dire les Louis Nishmat alors?
Alors, on y va, allez, on va dire un peu les Chaïm, on fait une petite pause. Je vais avoir un verre, s'il vous plaît.
Et à partir de quand alors les Averroth sont considérés comme les Mitzvot dans la Shiva?
Non, non, ça c'est autre chose, ça, doucement.
Ah, bah oui, mais c'est vrai.
Non, ça c'est que pour une teshuvaïla. Teshuvaïla, mais ça c'est un autre cours, on devrait faire un autre cours sur ça. Ça c'est ce qu'on appelle une teshuva de haut niveau. Ça c'est autre chose. Non, la majorité des gens qui font teshuva, leur Averroth ne sont pas transformés en Mitzvot. La teshuva aide sur le fait qu'on ne leur parle plus de leur Averroth.
Quand les gens font ça sur les cours. Quand ils disent ça dans les cours, ils ont l'impression que c'est une teshuva normale.
Ah non, pas du tout. La teshuva où les averot se transforment en mitzvot, c'est une teshuva d'un très haut niveau. Ça, je reviendrai sur, si vous voulez sur ça une autre fois.
Pardon, avant, tu te couchais à 4h du matin pour jouer à PS3. Maintenant, tu te couches à 4h du matin pour étudier. T'as fait une teshuva.
Mais une teshuva standard, ça veut dire dans laquelle je regrette mes fautes. Et je décide de plus recommencer. La teshuva aide sur le fait que Dieu efface mes averot. Mais il ne transforme pas en mitzvot.
Ouais.
D'accord?
compris, Joseph?
Dans certains cas, oui.
La vie, une fois, hein, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui est connu comme l'avocat d'Israël, que chaque fois qu'il voyait une situation qui malheureusement n'était pas bonne pour Israël, il s'arrangeait toujours pour nous défendre. Une fois, il a vu un rachat en train de fauter le jour du Yom Kippour. Enfin, en train de faire plusieurs bêtises en même temps. D'accord? Le jour du Yom Kippour. Alors, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, normalement, en tant que rabbin, il aurait dû le descendre. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il le voit avec un grand sourire et il lui dit, je t'envie. Il sait pourquoi?
Il dit parce que
toi, le jour où tu feras teshuva, hein, si tu fais une grande teshuva et que tes averot se transforment en mitzvot, t'auras beaucoup de mitzvot. Ah ouais, voilà, c'est pas mal, il a vu ça du bon côté. Chaim. Alors, on est au milieu, vous savez la page 305? Aval, à côté du point.
Citron.
Aval, mais... Tzedek, lefanav yahaler, ou lachon, zachar. On a dit que là, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a parlé la semaine dernière? La semaine dernière, on a parlé de la tzedaka au féminin. Ça veut dire une tzedaka passive, pas une tzedaka active. Une tzedaka ou une mitzvah en général qui vient suite à l'encouragement de quelqu'un, suite à l'instruction de quelqu'un. Nous, ce qu'on veut obtenir, c'est tzedek, lefanav yahaler, ou lachon, zachar. Nous, on veut obtenir une tzedaka qui est mal. Ça veut dire quoi, mal? C'est qu'avec le temps, et on va donner des techniques pour ça, il faut essayer de faire en sorte que, par exemple, si on parlait de la tzedaka, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait une personne qui est là pour me sensibiliser. Et le gars, il est là, il te fait pleurer et tout, tu dis, bon, tiens, imagine-toi. D'accord? Que quoi?
Pour aller taper à la porte avec ton chéquier et donner.
Alors moi, j'ai pas été jusqu'à là. Mais être sensibilisé sans compter sensibiliser, c'est très compliqué.
Ça m'a coûté 100 euros le cours, la semaine dernière.
Quoi?
Ah bah, tu vois.
Avant qu'on me demande, j'ai donné.
Là, il va te coûter 500, là.
Ça y est, il y a plus. Oh, 100 par 6.
Merci,
chaque fois qu'on fait un cours sur la tzedaka, ça me coûte 100 euros.
Chez les Russes, il y a un proverbe qui dit que quand on croit qu'on a atteint le fond de la bouteille, tu sais, pour l'alcool, c'est là en vérité que ça commence.
Amen, amen.
Donc, aval me tzedek efanav yehaler hu lashon zachar imidat hachesed amitoreret belev adam meatzmo. C'est quoi une tzedaka, ce qu'on appelle une tzedaka active? C'est quand on a le chesed d'une personne qui s'éveille mais atzmo de lui-même. C'est-à-dire sans que tu aies besoin d'être rabâché par quelqu'un, que quelqu'un qui t'a éveillé. Ah, il va donner des exemples. Aliyede itoreru tavatashem ikreat shema. Il dit, regarde, par exemple, imagine-toi un simple matin, ou un simple soir, comme tout à l'heure. Tu fais le schéma. De quoi tu parles dans le schéma? Dans le schéma, tu parles de l'importance d'aimer Akadosh Baruch Hu. Est-ce que quand on fait le schéma, on se sent inspiré? Non. Pourquoi on se sent pas inspiré? Parce qu'en vérité, sans se rendre compte, on est tous en mode maasé. Ça veut dire qu'on est tous, on attend tous d'être encouragé par quelqu'un. On attend tous d'avoir un shiur de Torah dans lequel il y aura quelqu'un qui va nous parler de l'importance de quelque chose. Et là, on va être inspiré. Mais pourtant, il te dit, pourquoi tu attends qu'on t'inspire? Alors que tu as les outils pour être inspiré toi-même. Par exemple, tu as le schéma. Tu vas dire, oui, mais le schéma, tu comprends, je le fais tous les matins, je le fais tous les soirs. Bon, ça, peut-être au début, ça m'a marqué, mais là, au début, là, maintenant, ça me marque plus. Okay? Donc, où est le problème? Le problème est chez moi. Donc il faut trouver des techniques, comment essayer d'éveiller la flamme en soi sans qu'on ait besoin de l'éveiller. D'accord? Puisque tout à l'heure on a parlé de l'exemple des hommes et des femmes, d'accord? C'est un exemple que le Zohar amène, hein, ne me prenez pas pour un... Donc il dit, en général, il y a des hommes qui pensent qu'ils doivent être attirés vers leur femme seulement quand leur femme fait un pas vers eux pour les attirer. Des fois ça peut être le contraire. Des fois ça peut être l'homme qui peut faire un effort de réflexion pour comprendre que sa femme a toutes les qualités, enfin en tout cas toutes les qualités qu'il a besoin. Et par rapport à ça, de lui-même, sans que sa femme fasse un effort pour aller vers lui, lui-même il a tiré vers sa femme. Vous voyez la différence entre les deux? C'est que dans le premier, il était passif. Sa femme a fait un effort vers lui, d'accord? Elle s'est embellie, etc. Et là, il a été attiré. Donc il était passif, d'accord? Mais ce qu'on attend dans la deuxième phase, c'est qu'à un certain moment, tu deviennes actif. C'est-à-dire, t'as pas besoin qu'on te fasse des choses comme ça. De toi-même, tu sais déjà ce que tu dois penser. Donc, on sait que ça, on est conscient que ça prend du temps, mais c'est la phase où on doit arriver. C'est l'exemple que je vous donne, c'est l'exemple du Zohar. Le Zohar, il dit que c'est la même chose. Nous, Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme, et nous, on est la femme. D'accord? Donc, il explique exactement la même chose. Il dit que c'est exactement cette même relation, qu'il faut pas attendre que l'un fait le pas vers l'autre. Il faut, de nous-mêmes, d'accord, avancer vers Akadosh Baruch Hu. Aliyede itoreirut.
C'est le chrétien, même s'il n'y a pas le cœur, c'est pas nous qui avons avancé.
Alors, ce qu'il va expliquer, on va développer tout ça. D'accord? Et concrètement, ça a l'air abstrait tout ça. On sait très bien que ce soir on va faire le schéma et que bon, notre schéma, ce sera pas. Faut être honnête. Hein, il faut pas. Chez les chassidim, on dit, il faut pas se mentir. On dit, les gens, ils pensent qu'ils se mentent. Après, mais après un certain moment, tu grandis et tu réalises que tu t'es menti. Et comme il y a un proverbe chassidique qui dit, arnaquer un imbécile, c'est pas une chorma. Ouais. Ben oui. Parce que c'est le Rabbi Rachav qui dit comme ça. Le Rabbi Rachav, il dit, les gens, quand ils sont jeunes, ils croient qu'ils arnaquent le monde entier. Après, quand ils grandissent un petit peu, ils comprennent que bon, ils arnaquent pas le monde entier. Ils se disent bon, j'arnaque pas le monde entier, mais j'arnaque au moins ma communauté. Ça veut dire qu'ils croient des choses sur moi qu'en vérité que je n'ai pas. Après, quand ils grandissent un peu, ils comprennent que non, sa communauté c'est qui il est. Ils disent bon, alors au moins j'ai réussi à arnaquer ma famille. Ma famille a une image de moi que je n'ai pas. Et il y a un moment quand il vieillit, et il comprend qu'en vérité tout le monde sait qui il est. D'accord? Alors il se dit, je me suis arnaqué tout seul. Mais il dit, mais arnaquer un imbécile, c'est très facile. En parlant de, c'est un problème chassidique.
Donc,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou les dofs, donc, à l'idée, ils te reroutent à, donc, c'est facile de dire, faire le schéma et s'éveiller. Mais concrètement, on sait que ça n'arrivera pas. Donc, à l'idée, ils te reroutent à Vatashem Kriat Shema, ou les dofs kavo velimsor navsho be'echad, ou bechol meodera kipshuto, voilà le mot où je voulais en arriver, ou beitaruta diltata. Voilà. Le mot où je voulais arriver, c'est le mot itaruta diltata. Itaruta en araméen, ça veut dire le réveil. Diltata, ça veut dire quoi?
D'en haut.
Ah non.
D'en bas.
Dil'aïla. Très, très facile à se rappeler. D'accord? Dil'aïla. Marala, l'emala en hébreu, ça veut dire quoi?
C'est en haut.
En haut. L'emata, ça veut dire quoi?
En bas.
Donc, itaruta, le réveil. Dil'aïla.
Au milieu.
Dil'aïla, c'est en araméen. D'accord? D'en haut. Itaruta, diltata. Ça nous rappelle matal, le réveil d'en bas. Alors, qui se rappelle ce qu'on expliquait la semaine dernière? C'est quoi le réveil d'en haut, le réveil d'en bas?
Ce que tu dis à la fin de le vendredi
soir. Oui, le vendredi soir, oui. Alors, c'est quoi la différence entre le réveil d'en haut et le réveil d'en bas? Allez, qui peut nous rappeler ce qu'on expliquait la semaine dernière?
Au hasard, Marcel.
Bien sûr.
Allez, au pif.
On avait dit que c'était HM. D'en haut, c'est HM qui envoyait quelque chose.
Un exemple concret.
Il nous envoie une épreuve et ça
un rêve, par exemple.
Un rêve, par exemple, d'accord. Donc, une personne, il fait un rêve qui le bouleverse. Il se réveille le lendemain et il dit, je vais à la synagogue. D'accord, mais concrètement, il a fait un rêve et le rêve était assez bouleversant pour le pousser à venir à la synagogue. Oh, ce qui compte, c'est qu'il est venu à la synagogue. Après, ce que le rêve il vaut, ça c'est pas la question.
Ouais.
Donc là, on parle de quoi?
Del mala alemata.
D'un réveil d'en haut, qui a suscité un réveil d'en bas. D'accord?
Pourquoi le réveil, il émanerait d'en haut obligatoirement?
Parce qu'il est, il peut venir nulle part. De quoi on rêve normalement?
Il vient pas de
normalement, parler, on rêve de ce qu'on a pensé pendant la journée.
La
quand tu as une chose que tu rêves, alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu as pensé pendant la journée ou pendant les derniers jours, c'est qu'il y a un truc, c'est que ça vient d'autre part. Normalement, on rêve de ce que, normalement, le rêve.
Peut-être qu'on a rêvé de ça dans la journée.
L'Agmara a dit que le rêve, c'est une manière pour la personne de libérer son esprit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand, par exemple, pendant la journée, t'as peur de quelque chose, tu dis, j'ai peur que ça arrive. Ben, dans ton rêve, d'accord? Ça arrive.
Oui, il faut que tu l'évacues.
C'est une manière pour ton cerveau d'évacuer. Dis, vas-y, il va jusqu'au bout, il va sur l'imagination, et il transpire, et ça te permet d'évacuer, de dire, bon, ben, finalement, c'est pas si grave que ça.
C'est un cauchemar.
D'accord? C'est un cauchemar, et finalement, c'est pas encore arrivé, donc ça va. C'est ça le rêve. Mais si maintenant tu rêves de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu as pensé pendant la journée, c'est qu'il y a un signal du ciel. Et quelqu'un qui a pensé à toi. Ça peut être un tzadik, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui a pensé à toi. Donc là, on parle d'un réveil d'en haut. D'accord? C'est le réveil d'en haut qui a suscité le réveil d'en bas. Maintenant, alors on avait expliqué la semaine dernière que c'est quoi le problème quand c'est un réveil d'en haut qui suscite un réveil d'en bas? C'est pas qu'il tient pas. Ben, attention.
C'est que, à long terme.
Si on ne fait pas un effort par derrière pour le maintenir, pour faire un keli, pour le garder, d'accord? Il tiendra pas, il partira. Ça veut dire, c'est un moment qui est très puissant, c'est un coup de foudre. Voilà, imaginez un coup de foudre. Tout à l'heure, on a parlé des hommes et des femmes. Imaginez, voilà, un coup de foudre. Mais si tu fais rien pour maintenir le mariage, le coup de foudre, il va partir. Il va tenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Si tu fais rien pour maintenir ça, ça va partir. C'est comme un coup de foudre. D'accord? Alors que, d'un autre côté, le réveil d'en bas, c'est quoi?
C'est la personne d'elle-même. D'un seul coup.
C'est une personne qui fait un effort pour... C'est pas d'un seul coup, justement.
Il peut avoir un événement.
Ah non, s'il y a un événement, ça s'appelle un réveil d'en haut.
Non, mais un événement,
Ah non. Si c'est suite à un événement, ça s'appelle du passif. C'est plus de l'actif. J'ai pas dit que c'est mauvais. Mais j'ai dit que c'est plus du réactif.
C'est du, d'en bas.
Le vrai actif, c'est une personne.
Un événement, là.
Qui n'a, c'est rien passé du tout. On a des gens comme ça. On a des gens comme ça. Des gens, il s'est rien passé du tout. Rien du tout, rien de particulier. Et ils réfléchissent. Des fois, ça dure des années. ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent.
Ouais, on a dit que leur truc d'en bas, c'était un déclencheur.
Alors, exactement. Mais ça prend très longtemps, ça. T'as dit d'un seul coup, c'est une erreur, ça. Ça vient pas d'un seul coup, ça. Mm. Ça, c'est un travail d'une vie. C'est une maturation, exactement. Oui. Et ça, par exemple, imagine-toi, par exemple, mais maintenant.
Dans le problème de la maturation, oui. Il y a obligatoirement un effet déclencheur.
Voilà.
Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, une pomme, elle devient mature. Toi, tu penses, en étant un étranger extérieur, que tu penses que c'est un processus qui est normal.
Ouais.
Mais en réalité, ce n'est pas un processus qui est normal. C'est une dégénération d'une certaine cellule, du machin, qui fait que... Mm-hmm. Mais il y a bien un top,
un événement.
Top au départ, un événement qui avait quelque chose. Donc, nécessairement, il n'y a pas forcément quelque chose qui est étranger à là-haut.
Alors, la question, c'est ça. La question, c'est qui était le déclencheur? Est-ce que le déclencheur était un élément qui était externe à moi? Ou c'était moi-même que j'ai commencé à réfléchir à ma personne, à qui je suis, à ce qui m'arrive dans ma vie, etc.
C'est d'un seul coup. D'accord. D'un seul coup, c'est mis en
non, cause. Non, ça arrive des années. Ça, des gens qui apprennent, ça prend des années. Il réfléchit, il voit qu'il y a des failles, il dit tiens, c'est bizarre, pourquoi ça se passe comme ça? Il réfléchit, il dit bon, je penserai plus tard. Après, un an plus tard, il dit tiens, et ça travaille. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la relation entre un homme et une femme, c'est comme si tu as un garçon qui n'a pas eu de coup de foot pour une fille. Il n'a pas eu de coup, mais progressivement, il s'est attaché à la personne. Que là, c'est vrai qu'il n'y a pas de coup de foot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des effets spéciaux. C'est pas le gros coup.
C'est les meilleurs mariages.
Mais par contre, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme ça vient du bas, et comme c'était durable, chaque pas qu'il a fait, c'est un pas qui est en béton. C'est un pas qui bouge pas. Donc chacun a sa qualité. Le premier a sa qualité, c'est qu'il est très puissant. Le deuxième a sa qualité, c'est quoi? C'est quand ça vient d'en bas, sa qualité, c'est que c'est quelque chose de durable. Donc l'un dans l'autre, les deux sont bons. Donc dans la vie, on a un peu des deux. C'est ce qu'il dit ici. Et il dit, si tu veux savoir c'est quoi le secret, pour être capable de devenir méassé, pour être capable de devenir autonome, c'est la réflexion. C'est d'arrêter d'attendre que ça vienne d'en haut. Il faut faire un travail de réflexion et ne pas avoir peur du fait que ça va prendre des années, des dizaines d'années. C'est pas grave, ça te dérange pas. D'accord?
Tant que ça arrive, d'accord, toi tu bouges pas.
Tant que tu as une démarche sincère et que toi tu veux avancer, mais que concrètement t'as pas de déclencheur, t'as pas eu un tzadik qui a réussi à te bouger de manière à ce que tu sautes. Non, ça vient de toi. Ça prend du temps. Ça prend toute une vie. C'est possible que c'est même pas toi qui finira le travail, ce sera tes enfants et tes petits-enfants. C'est pas grave. Mais tant que dans ta tête, t'as une démarche.
C'est pas gagné.
D'accord? Pourquoi c'est pas gagné? Au contraire.
Les gosses.
Pourquoi c'est pas gagné?
Chez les meilleurs, ceux-là.
Bien sûr. Les enfants, ils continuent où les parents se sont arrêtés. Ne crois pas. Tous les efforts que tu as fait, d'accord? Imagine-toi que toi, tu as fait un effort, par exemple, pour faire le Shabbat. Pour ton fils, c'est un acquis de faire le Shabbat. Cet acquis, il n'est pas venu nulle part.
Il démarre en avance.
Il est venu grâce à ton travail. D'accord? Donc toi, maintenant, tu vas encourager ton fils maintenant. Imagine-toi que toi, tu étudies une heure par jour de Torah. Pour ton fils, c'est un acquis d'étudier une heure. Donc son effort sera d'étudier deux heures.
Moi, j'étudie une heure.
Bien sûr. C'est un acquis, ça ne veut pas dire qu'il le fera. Mais ça veut dire que dans sa tête, c'est accepté que c'est la normale. C'est la norme. Donc tu as ancré quelque chose dans ton fils.
Amen.
Je vais vous raconter.
Ouais. Mais oui, c'est évident.
Pour le contraire.
C'est évident.
Oui.
Bah, qui est, son père est.
Oui.
Et on ne sait pas pourquoi. L'enfant, il n'est pas du tout aucun rapport. À l'opposé.
C'est un rejet.
Ça peut être l'influence des voisins, l'influence des amis. Ça arrive. Ça arrive très souvent. Ça arrive.
Et puis des fois, ils reviennent.
Des fois, il fait un rejet, comme il dit. Mais ça change pas que ces gens-là, ils ont quand même des choses, des notions qui sont ancrées en eux.
Souvent les gosses, ils prennent les défauts des parents.
Toi, ce que tu entreprends, ce que tu ouvres, tu l'ouvres aussi pour tes enfants.
C'est sûr ça.
Mais si l'enfant, il referme la porte.
Non, seconde. Que l'enfant, après, il agisse ou il agisse pas, c'est son problème. Ça, c'est son libre arbitre. Mais il a les bases quand même. C'est-à-dire que c'est ancré en lui. C'est pas parce qu'une notion est ancrée en moi que je vais la faire. Par exemple, imagine-toi que mon père, il étudie 3 heures par jour. Moi, je l'ai vu étudier 3 heures par jour. Ça ne veut pas dire que moi, je vais étudier 3 heures par jour. Peut-être que moi, j'étudierai 1 minute par jour. Mais dans ma tête, c'est ancré que c'est la norme. Même si je ne le fais pas, je sais que c'est la norme. Peut-être mon etzara, il va être trop fort, je vais craquer, je ne vais pas écouter, je vais faire toutes les bêtises, mais je sais que c'est la norme. Et ça reste dans les gènes. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. On connaît tous l'histoire de la Haggadah. Dans la Haggadah, on dit « Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Are Ani Keven Shivim Shana ». Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, j'ai l'air d'une personne qui a 70 ans, d'accord? Et donc, là-bas, on raconte que, la Gemara, elle raconte, elle dit, ça veut dire quoi? Il dit, j'ai l'air d'une personne qui a 70 ans. Il a 70 ans ou il a pas 70 ans? Et la Gemara, elle raconte, elle dit qu'en vérité, il avait l'âge de 18 ans. Il avait l'âge de 18 ans. Et il venait d'être nommé en tant que chef du Sanhedrin. Alors, la Gemara dit, mais s'il a 18 ans, pourquoi tu me dis qu'il est comme si qu'il a 70 ans? Un jeune homme de 18 ans, il a pas l'air de quelqu'un de 70 ans. Et la Gemara dit comme ça. La Gemara a dit parce qu'en vérité, quand il est rentré chez lui, le soir où les Chachamim l'ont nommé, sa femme, elle lui a dit, non, sa femme, elle lui a dit, mais attends, dis-moi, j'apprécie le cavote que les Chachamim t'ont donné, mais t'es un jeune homme, t'as 18 ans, c'était pas le moment d'être le chef de Sanhedrin une fois, attends, t'as toute ta vie devant toi. Et là, à ce moment-là, on raconte une seconde, que, justement, elle s'est arrivée. D'accord? Et là, on raconte que justement, il est parti dormir. Vous connaissez l'histoire. Après, je vais vous la commenter, l'histoire. Après, on raconte justement qu'il est parti dormir. Et il a demandé avant de dormir une bracha à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, donne-moi un signe. Pour savoir, est-ce que je suis la bonne personne ou pas. Et la Gemara, elle raconte que quand il s'est levé, il avait déjà la barbe. Et dans sa barbe, il y a eu 17 colonnes de poils blancs. Bon, à l'époque, c'était une marque de respect. Sagesse. D'accord? De sagesse. Et donc, de là, il a compris que ça voulait dire que c'était un signe de Dieu, que c'était bon. Alors, le rabbi pose la question sur cette histoire, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que réellement il avait la chorma ou il n'avait pas la chorma? S'il avait la chorma, alors pourquoi il en a affaire de, je veux dire, pourquoi sa femme vient l'embêter maintenant? D'accord? En plus, exactement, il ne se pose pas la question. C'est une question qui est évidente. Pourquoi il y a besoin de rentrer dans des effets spéciaux que dans la nuit on lui met 17 colonnes de barbe? Qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer dedans? Le rabbi dit, c'est très simple. Il dit, en vérité, Rabbi Elazar ben Azaria venait d'une famille, le Talmid des Chachamim. Et, quand on montait jusqu'à 10 générations en arrière, c'était tous des chefs de Sanhedrin. Chef de Sanhedrin, chef de Rosh Yeshiva, etc. Mmh. Donc c'était dans ses gènes. Vous comprenez? C'était dans ses gènes. Il avait 18 ans. Ça veut dire que biologiquement, il avait 18 ans. Mais si tu vois sa connaissance en Torah et qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, c'est un bonhomme qui n'avait pas 18 ans, c'est un bonhomme qui avait 300 ans. Avec ce qu'il a, avec les acquis qu'il a eu des gènes de ses parents, du fait que ça fait 10 générations que c'est des grands sages, il l'avait dans les gènes. C'est pour ça que lui, quand on lui a proposé le poste, il sentait qu'il était capable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je fonce. Quand il est rentré chez lui, sa femme, elle lui a dit, est-ce que t'es sûr que t'es prêt? C'était quoi le fond de l'argument de sa femme? C'est que sa femme, elle lui a dit, écoute, c'est vrai que tu l'as dans les, c'est vrai que tes parents t'ont laissé ça dans les gènes. Mais est-ce que réellement t'as réussi à l'exprimer dans ta personnalité? Parce que des fois, il y a des gens qui ont ça dans leurs gènes, mais concrètement, il faut l'exprimer. Et là, il a eu un doute. Il a dit, c'est vrai, ma femme a raison. Peut-être que je l'ai dans mes gènes, parce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont tous des tzadikim. Mais c'est pas dit que j'ai réussi et que je sais déjà comment exprimer ça dans ma personne. Alors c'est pour ça qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un signe. Quel est le signe que Kadosh Baruch Hu lui a donné? Il lui a envoyé les colonnes de barbe pour lui dire, écoute, tu es jeune, mais en vérité t'es vieux. Pourquoi? Parce que t'as tes parents. C'est même pas le strout des parents. On parle même pas d'un strout ici. On parle d'un acquis. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on laisse un acquis à nos enfants. Et au contraire, c'est une grande bracha quand des parents voient que leurs enfants les dépassent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les enfants ont continué où les parents se sont arrêtés. D'accord? En général, c'est comme ça. C'est la norme est comme ça. Après, des fois, malheureusement, comme ce qu'il y a eu le dernier siècle, après, des fois, il y a des changements dans le monde qui font que, comme dans la bourse, des fois, il y a un crash.
L'héritage, tu peux brûler ton héritage.
Qu'est-ce qui s'est passé le dernier siècle? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un grand bouleversement dans le monde. C'est-à-dire, t'as eu les populations qui ont changé d'endroit, qui sont arrivées dans un endroit dans lequel ils ont été assimilés. Donc, il y a eu une chute, c'était un crash. D'accord? Et là, on remonte progressivement. Il y a des crashs, ça arrive des crashs. Il y a des crashs dans les deux sens. Là, on a vécu un crash. Et là, on est en train de remonter. Mais on doit savoir que nos enfants continuent là où on a commencé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la notion de Itaruta Dittata, le réveil d'en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup de foudre. Il ne faut pas s'attendre à un coup de foudre. À Kadosh Baruch Hu, il y a un autre endroit en Chassidut, le rabbi l'explique, il dit que à Kadosh Baruch Hu, s'il voulait, il aurait pu nous faire des miracles devant nos yeux. C'est vrai, des fois, il y a des gens qui disent, donne-moi une preuve que Dieu existe. Je crois que pour Dieu, c'est un problème de lui faire un miracle devant lui. C'est rien pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et je veux dire plus que ça. Il pose, là-bas, dans le commentaire, il pose la question, il dit pourquoi Dieu ne nous fait pas des miracles, même un miracle, comme il a fait en Égypte? D'accord? Même un demi-miracle de ce qu'il y avait en Égypte. D'accord? Pourquoi il ne nous fait pas? Et qu'est-ce qu'il répond le rabbi? Il dit c'est très simple. Il dit parce qu'en vérité, le fait que Dieu a eu besoin de leur faire des miracles comme ça pour les attirer, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. C'est un signe qu'ils n'étaient pas actifs. Ils étaient passifs. Ils ont dû être emportés par le mouvement, par le show. D'accord? Oui, tu as raison, ils n'avaient pas le choix. Mais nous, Akadosh Baruch Hu n'attend pas ça de nous. Akadosh Baruch Hu veut pas qu'on soit emporté par le show. Akadosh Baruch Hu de nous, il attend qu'on s'emporte soi-même progressivement. Le réveil d'en bas. Et il rajoute un autre point ici. D'accord? Il n'y a pas de miracle. Pourquoi tu fais des miracles?
Pour calmer le nord et le sud.
On est des miracles, nous. On est là au cours ce soir, c'est un miracle.
Quand tu as besoin, tu vas voir un tzadik et tu fais des petits effets spéciaux. Mais on n'aime pas ça. Faut pas avoir besoin de ça.
Oh, on est bien quand même. Non,
on a besoin, c'est l'essence. C'est l'essence.
Non?
C'est le carburant.
Il faut pas. Ça, c'est la phase A.
Elle sait quoi la technique alors?
Ça, c'est la phase A.
Et le plan B.
Bon, même dit, je viens plus à ton cours.
La phase, écoute, c'est très simple. La phase A, justement, c'est d'avoir besoin toujours de stimulants. Après, c'est fini. Le gosse, quand il est gamin, tu lui dis pourquoi tu vas à l'école, tu donnes un bonbon. Mais après, si jusqu'à 25 ans, quand il est à la fac, tu lui dis pourquoi t'es à la fac, parce qu'il a le bonbon, il y a un problème.
Mais ça, c'est des années aussi.
Justement. Donc, le gosse, il va avoir 20 ans. Il y a un problème. Le gosse, tu dis pourquoi tu vas à la fac pour gagner une PSP. Attends, il y a un problème, t'as 25 ans, va voir.
Non, après, il te demande la Ferrari.
Mais il y a un moment, l'enfant.
Voilà, donc il a compris. Il a compris un moment. À un moment, il a compris qu'on travaille pas pour une PSP, on travaille pour, parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut avoir un métier.
Je l'ai pas encore compris, moi, j'ai 40 ans.
Du père et du fils. Malgré ça, le fils.
Donc, pour moi-même acheter la PSP, donc pour être autonome.
Entre le père et le fils, c'est vrai qu'il a bien compris qu'il n'y avait pas pour la PSP. Même si on a la PSP du père, ben, ça, il apprend quand même parce qu'il veut quelque chose quand même de son père. Pas vis-à-vis du truc, il veut quelque chose de son père. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est ce que je veux dire dans le sens.
Même ça, si mon fils, il va dans les gènes.
Ça, c'est la phase
A. Ça, dans les gènes.
La phase A.
Non, c'est pas que c'est en phase A. Je fais, mais.
Hein?
Ça vient de donne.
Il faut. Bah, à un certain moment, il faut plus dépendre des cadeaux.
Je suis né dedans.
Il faut plus dépendre des stimulants. Il faut se stimuler tout seul.
Pour les grands, pas pour les petits.
Mais c'est pas par hasard. Hein. Attendez. N'oubliez pas, c'est la dernière lettre du livre. Ça veut dire que on n'est pas en train. C'est-à-dire que ça, c'est quand on est en fin de parcours. J'ai pas dit qu'on y est là. Mais ça, c'est le but. Le but, c'est d'arriver là. J'ai pas dit qu'on y est déjà. Peut-être qu'on y est pas, peut-être une personne n'est pas prise, il a besoin d'être stimulé encore. D'accord, c'est à la fin du livre. Mais le but est là.
Il y a même un cas de...
Bon, moi j'ai pas bien compris ce qu'il veut qu'on fasse.
Ce qu'il veut, c'est qu'on attende, qu'on arrête d'attendre d'être stimulé. À un certain moment, il faut arrêter d'attendre un réveil d'en haut pour stimuler le réveil d'en bas.
Mais pour faire quoi de plus?
C'est rien de plus. Au contraire, tu feras moins. Mais ça viendra de toi. Donc c'est durable. Donc c'est quelque chose que tu pourras inculquer à tes enfants. Tu comprends?
On parle d'études.
Je te donne un exemple. Tu as été voir le rabbi. D'accord?
Baruch
Hashem. Tu peux pas l'inculquer à tes enfants, ça. Qu'est-ce que tu peux inculquer à tes enfants? C'est le résultat de ce voyage. Si suite à ce voyage, ils ont vu que tu as augmenté ton rêve mitzvot, ce résultat, tu peux l'inculquer parce que ce résultat, il est venu de toi.
Ce résultat, mais si tu parles d'abstrait ou de concret?
Non, résultat concret. Le fait qu'il a vu que concrètement maintenant son père étudie, ça c'est un résultat. Ça tient.
Mais oui, mais on n'a rien fait pour ça, c'est naturel.
Vous savez, j'ai lu hier soir.
Grâce aux cours et aux...
Écoute bien ce que je vous raconte. J'ai lu hier soir, regardez. Je ne sais pas si je l'ai... Ah oui, je l'ai ici, ouais. Donc, mon WhatsApp. Alors, regardez.
WhatsApp.
Alors...
WhatsApp, Youssef.
Je vais vous lire. C'est un manuscrit du Rabbi. Un manuscrit qui a été publié récemment du Rabbi. Tu connais pas WhatsApp? C'est un copain moi qui m'a envoyé un manuscrit du Rabbi. Alors, je vais vous lire, d'accord? Là, vous avez un manuscrit, d'accord? Un manuscrit, c'est une personne qui a écrit... Attendez.
Pardon.
Voilà. C'est une personne qui a écrit au rabbi, d'accord? Alors, je vais vous lire dans les mots. Son manuscrit et la réponse du rabbi dessus sur le manuscrit. Donc, on a la copie, hein, le facsimilé. Donc, très cher rabbi, je m'appelle Arenita, etc. Je suis le responsable de ce groupe. Donc, c'est un groupe qui est venu voir le rabbi en 87.
Continuez en français.
D'accord? Oui, oui.
Traduit.
En français. Il a écrit en français, on a le manuscrit. Il a gardé le manuscrit, il a publié. Nous sommes en voyage pour 21 jours et nous avons tenu à passer le premier Shabbat avec vous à Brooklyn. Je vous demande de bien vouloir appeler sur nous la bénédiction de Hakadosh Baruch Hu, la réussite de notre voyage ainsi que de nos entreprises personnelles. 6 juin, la lettre des participants au voyage, donc dans laquelle il a inscrit le nom et le nom de parents. Alors le rabbi a répondu. Donc le rabbi répondait dessus.
Mais ça, il déchirait pas, pardon.
Ah non. Non,
il les a tous gardés.
Il y avait des papiers. Ce qu'il a gardé, le document supplémentaire qu'il a donné avec le nom des brachot. D'accord? Ça, c'était un document. Donc, sur ce document, le rabbi a répondu, on a le manuscrit. Parce que le rabbi répondait en hébreu, il mettait quelques mots en hébreu pour indiquer au secrétaire ce qu'il doit répondre. Il a dit comme ça. Donc, il a dit, j'ai bien reçu votre, ce qu'on appelle le PAN. D'accord? Donc, c'est le document. Il est félicite d'avoir pensé à indiquer le nom de la mère. Il dit Sheken Askirim Bitfila, puisque je vais le mentionner dans mes prières. Il leur dit, n'oubliez pas dans vos voyages de faire la Tfilat Aderer, la prière du voyage. Et il les invite à venir le dimanche prochain pour recevoir le dollar du dimanche matin, qu'ils redonneront à la Tzedaka. Et écoutez bien pourquoi je vous dis ça maintenant. Vea Ikar est l'essentiel, d'accord? C'est achlatat kol echad ve'echad, c'est la décision concrète de chacun des participants du voyage, le'an haga yomit roulé, donc pour une conduite quotidienne, alpi Torah ou mitzvot, selon la Torah et les mitzvot, va Hashem yatzlichem, et Dieu leur accordera la réussite. Vous avez vu? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que leur a dit le rabbi? Le rabbi leur donne des brachot. Il leur dit, vous inquiétez pas, je prie pour vous, n'oubliez pas, venez dimanche matin au dollar, etc. Ça, c'est important tout ça. Il dit, ve'aikar, Icar, c'est quoi l'essentiel de tout ça? Vous allez faire un voyage, 21 jours, vous allez faire le tour, vous allez venir, vous allez vous chauffer. Icar, c'est quoi le Icar?
Le plus important.
D'accord, c'est quoi l'essentiel? Achlatat kol echad ve'echad, c'est la décision que chacun prendra suite à ce voyage, le anhaga yomit, pour une conduite, c'est pas une décision sur quelque chose que tu feras dans deux mois. Anhaga yomit, quotidienne, tu dis voilà, avant je faisais pas ci, maintenant je vais rajouter le faire teilim tous les jours. Même une petite décision. Un teilim par jour, deux teilim par jour, trois teilim, le teilim du jour. Peu importe. C'est ça l'essentiel du voyage. Ça, c'est la réponse du rabbi. Quand j'ai voulu vous partir, ceux qui veulent après le cours, je pourrais leur montrer. Moi, j'ai trouvé ce manuscrit. Parce que là, on a le manuscrit de la personne, et dessus, la réponse du rabbi, il a écrit en hébreu. C'est exactement ce qu'on dit en train de dire ici. C'est ça, le Icar.
Dactylographié ou à la main?
À la main, tout à la main. C'est un manuscrit. Quelle année? 87.
En 86, excusez-moi, 83. Nous, on a reçu une lettre, elle était appelée à la machine, elle était signée.
Non, ça c'était en vérité, quand on écrivait une lettre au rabbi, le rabbi sur la lettre même, on l'a donnée au rabbi, il donnait quelques mots. Oui. Non, mais on le voyait pas, il donnait au secrétaire, donc il mettait quelques mots pour dire les éléments de réponse, on l'a donné au secrétaire. En général, le secrétaire, il laissait pas la personne récupérer son papier. D'accord? Il les gardait, et en général après, on les envoyait au L. Mais des fois, quand la personne insistait, il récupérait le papier. C'est grâce à ça qu'on a ce papier. On a des centaines de papiers comme ça. Et après, c'est les gens qui, eux-mêmes, qui veulent publier. C'est-à-dire, la personne qui était destinataire de ce message, mais des fois, quand il marie, chez les Chabad, on fait comme ça, quand il marie ses enfants, etc., qui veut donner un cadeau, dans le fascicule qu'il distribue au mariage, à la fin, il dit, voilà, un document que j'ai reçu du rabbi, et c'est quelque chose de...
Et le rabbi, il était d'accord pour que justement...
Oui, il n'y a pas de troc dans ça, c'est juste au contraire. C'est beau. Oui, il y a plusieurs livres. Ah, mais là, c'est des manuscrits. C'est une autre... C'est carrément manuscrit. Je vous montrerai après si vous voulez. Je peux même vous l'envoyer, ceux qui veulent. Hein.
Un mot truc, il y en a plein, non?
Oui, des manuscrits. Ah bah oui, l'histoire, bien sûr. Mais ça, c'est... D'avoir des manuscrits du rabbi, une copie d'un manuscrit où le rabbi a écrit dessus, c'est rare. C'est... Surtout en français, en plus, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il m'a envoyé le copain.
Et il est avec plusieurs, tous les deux copains. C'est un américain?
Non, ce copain, c'est le schler du rabbi à Rouen. C'est un copain à moi, il m'envoie toujours des trucs comme ça, un peu... Par WhatsApp, on a des groupes comme ça sur WhatsApp et on s'envoie des petits trucs.
T'as WhatsApp? Bah voilà, t'as WhatsApp. Faudra que tu nous expliques ce que c'est WhatsApp.
T'as Viber et
WhatsApp. Voilà. Il y a Facebook, WhatsApp et Viber.
T'es branché dans
et Twitter.
Twitter.
Tu vas sur les applications et c'est ça. Tu vois, voilà, t'as WhatsApp ici.
Parce que je t'explique, c'est très simple. WhatsApp, c'est comme BlackBerry Messenger. Enfin, je vais ouvrir une parenthèse, je vous le ferme tout de suite. Et là, sur ce groupe-là, on est plusieurs copains. Il y en a qui sont à New York, il y en a qui sont en Israël, il y en a qui sont en France.
Donc,
on ne peut pas envoyer par SMS. D'accord?
Voilà,
c'est instantané.
D'accord.
Non, c'est pas comme Facebook.
J'en sais un peu.
Ouais, mais c'est pas comme Facebook. Non. C'est moins intrusif que Facebook.
T'as eu le blog qu'il avait là?
Là, c'est privé. WhatsApp, c'est privé.
C'est non, pas intrusif comme Facebook.
C'est VIP.
Tu peux créer
autant
de groupes que tu veux. Tout
ce que t'écris, ils le savent.
Bon, on continue à bouteille. On refait la parenthèse.
Moi, j'ai un accord avec Obama.
Non, c'est pas qu'ils le savent, ils peuvent le savoir.
Oui,
ils peuvent, mais pareil.
Donc.
Il y a des mots-clés. Si tu mets le mot bombe, c'est sûr qu'ils vont voir.
Ah oui, si tu dis Al Akbar.
Bah oui.
Le téléphone, il explose.
Moi, je l'appelle James Bond.
On continue à bouteille.
Donc,
on continue dans les mots. Rabota, elle est venue quand on termine. Bon, du coup, on n'aura pas le temps de faire la lettre 41, mais c'est pas grave. Au moins, on va devenir développer ça. Exactement, la semaine prochaine. Ok, maïm, apanim, lapanim, ken lev, adam, a elion, roule, itaruta, dil, ela. Maintenant, il dit quelque chose de très puissant ici. Il dit, il y a un principe que Kadosh Baruch Hu a mis dans le monde, qui est ke maïm, apanim, apanim, ken lev, adam, la adam. Ça veut dire que, de la même manière que quand tu vas devant un cours d'eau, le cours d'eau te renvoie ton visage. Ça veut dire que tu te vois et le reflet. Et donc, c'est une image que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, a utilisée pour illustrer le fait que finalement, la manière comment les gens se comportent envers nous, c'est la manière comment nous, on se comporte envers eux. Mm-hmm. Alors, la question est, qui a été le déclencheur? Mm-hmm. Par exemple, imagine-toi que je te fais la tête, Dieu préserve. D'accord? Si je te fais la tête, c'est qu'il y a un de nous deux qui a commencé à faire la tête. Et comme il a commencé à faire la tête, l'autre fera la tête. Maintenant, la question est, qui a commencé? Est-ce que c'est le réveil d'en haut ou le réveil d'en bas? C'est la question. Mais toujours un qui déclenche, et une fois qu'il a déclenché, l'autre va continuer. C'est pour ça que le Baal Shem Tov disait, une personne ne peut pas rester insensible devant un sourire. Une personne ne peut pas rester insensible devant un sourire. Quand une personne te sourit, t'es obligé de lui sourire. Mais pourtant, t'es levé, t'es énervé contre tout le monde, t'as envie de tout casser. Une personne, il te fait un sourire, tu vas lui faire une grimace. Oui, mais c'est une manière pour lui de sourire. C'est sa manière de sourire, c'est de faire une grimace. Parce que tu l'as amusé, le bonhomme. Parce que Kemaï m'a panim, elle panim. Parce que quand tu envoies un sentiment sincèrement, ce sentiment revient vers toi. Alors il dit, c'est exactement la même chose quand on parle du réveil d'en haut et du réveil d'en bas. C'est la même chose. Une personne qui montre à Kadosh Baruch Hu qu'il est sincère, David a dit tout à l'heure, il a dit oui, mais c'est bien beau tout ça, mais nous on a envie des fois d'avoir des petits effets spéciaux. Et le bonhomme, il est là, il morfe, il galère grave, il a envie d'avoir de temps en temps Dieu qui lui envoie un petit appel de phare pour lui dire bon, ça va, j'ai vu ce que tu fais, Razak, hein, c'est bien.
Pour ça, on vient au cours.
D'accord.
Bah oui, de temps en temps.
Ça fait du bien. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, il n'y a pas de problème. Il te dit, Dieu te le fera. Bah oui. C'est comme le visage là. Ça veut dire, tu lui fais un sourire, il devra te rendre le sourire. Il reviendra le sourire. Mais ça prend du temps. Il faut d'abord que tu lui fasses un vrai sourire, que ton sourire soit sincère, que tu sois à fond dedans, d'accord? Et là, Kadosh Baruch Hu clairement, si tu es sincère, Dieu sera très sincère avec toi. Si t'es pas très sincère, Dieu sera pas très sincère avec toi. Kemaï m'apanim, kenlev adam la adam. C'est-à-dire que Dieu finalement joue dans la même ligue que toi. Tu es sérieux, il est sérieux. T'es pas sérieux, il est pas sérieux.
Donc c'est un cours de tennis.
D'accord? C'est un cours de tennis. je vois au tennis, donc j'ai pas compris l'analogie.
Allez, retour. Tu renvoies une balle.
Ah oui, et ça veut dire, si tu joues si tu joues comme un gamin, il va jouer avec toi comme un gamin. Tu commences à jouer sérieux, bah là, il va se mettre au sérieux lui aussi. Ah, c'est comme
mais
ça.
Non, parce qu'on avait dit qu'au début que...
Tu sais, c'est comme des fois dans les jeux, tu vois, à un moment, tu vois, il se met au sérieux. Tu vois, il y en a un qui a montré que ça y est, lui s'est chauffé. L'autre aussi, il chauffe. Tu joues sérieux, joue sérieux.
Bon, attends le deuxième souffle.
Oui, non, parce que j'en avais dit que quand l'enfant a 13 ans, il va faire tout seul et sait qu'il va faire des fautes.
C'est pas grave.
C'est un entraînement, donc il va pas jouer
progressivement.
Il va pas jouer vraiment comme il va pas faire comme
le plus difficile.
Bien que ce qu'il fait, c'est pour le bien après. Donc il va pas dès le départ se comporter comme ça.
J'ai compris. Le plus difficile, c'est de créer la sincérité et le sérieux. C'est très difficile. Parce qu'au début, quand on commence à faire les mitzvot, quand on est bar mitzvah, même quand on fait teshuva, on commence à faire par routine. Après, créer une sorte de sérieux dans la personne, le fait que je fais la mitzvah du fond de mon cœur, etc. Ça prend des années, ça. Ça prend des années.
C'est pas gagné, c'est toujours. Il y a toujours des mauvaises habitudes qui reviennent.
Au début, tu le fais. Non, au début, tu le fais par le feu, parce que. Oui, mais c'est très compliqué à sentir le sérieux. Au début, tu le fais pour le challenge. Mais après, continuer, comprendre la sincérité, la kedusha, etc., ça prend des années. Ça prend des années, ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème.
Au milieu que t'es pas bon. Au début, t'es bon. À la fin, t'es bon. Mais au début, t'es pas bon.
Ça prend du temps. Il faut se dire que le boulot prend du temps. C'est ça. Il faut pas être, pas inquiéter. Mais il faut plonger. Il faut plonger. Même si on va boire quelques tasses, c'est pas grave. On continue.
Beaucoup de tasses.
Ok, Maï, m'a pas dit. Non, voilà. Franchement, c'est rassurant, ça.
C'est bien l'exemple que t'as donné. C'est quand même un teenager. S'il voit qu'il se coule, il va pas l'enfoncer.
Mais oui, non, mais c'est bon. C'est bon, l'eau.
Il faut le laisser, le bonhomme. Voilà. Si dès qu'il commence à boire une tasse, tu viens le chercher, tu vas pas l'apprendre à nager. Ah oui. Le bonhomme, il faut qu'il apprenne à se débrouiller. C'est-à-dire, quand tu vois qu'il commence.
Il va pas non plus le couler.
Je me rappelle quand j'apprenais à nager.
Jamais.
D'accord? Je commençais un peu à. Je commençais à boire la tasse. Et le manager qui était là, je lui ai fait un scandale après. Je lui ai dit, mais vous avez pas vu que j'étais en train de boire, pourquoi vous êtes venu me chercher? Il m'a dit, il faut que tu te débrouilles. Il m'a vu, il te voit comme ça, avec le sourire, comme ça. Il était là.
Ouais, mais il
n'a
pas de couler non plus.
Il n'a pas de couler, non. Il n'a pas de couler. Il te surveille.
Il vient juste à la limite. Il vient. Quand t'as vu la moitié de la visine, il vient. Apparemment, il va utiliser Nitramocha.
Itaruta.
Il manque le dagage à cause de ça, parce qu'il était en train de dépouffer. Il était en train de se noyer.
Ah bah oui. Donc, car ou amshachat orensov baruchu asovav kol alamin beolemat amata beolamaze agashmi bizman gilui bizman atriak mevoar bemirtav barichud eshtakad. Donc, ce qu'il explique ici, il dit qu'en vérité, tout à l'heure David il a posé la question, il a dit oui, mais c'est quand la fin de parcours? La fin de parcours, c'est quand tu auras Mashiach. C'est très simple. C'est très simple. Moi, quand je lis ça, je comprends. Tant que Mashiach n'est pas là, ça veut dire qu'on est en plein parcours. Et des fois les gens ils disent oui, mais avec tous les efforts que je fais, comment ça se fait que je réussis pas? On dit, mais si t'avais réussi, ma chère était déjà là, serait déjà là. Alors, si on réussit pas, non, c'est-à-dire quand ma chère sera déjà là, on sera comme des robots. C'est-à-dire, ça sera automatique. On sera complètement autonome. Là, on a du mal à être autonome. Parce que c'est difficile. On est comme un gosse qui est en train d'essayer d'apprendre, après il devient ado, après c'est compliqué. Quand ma chère viendra, ça veut dire qu'on sera tous ado. On sera tous autonomes. Là, c'est pas le cas encore, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui a prévu le système. Dieu aurait pu nous faire des miracles, même un demi-miracle de ce qu'on a vu à la sortie d'Égypte. Je vous garantis que tout le monde serait devenu religieux. Mais sans aucun problème. Il ne le fait pas parce qu'il veut pas de ça. Il veut pas des gens qui font des, qui font les mitotes parce qu'ils ont eu, ils ont été encouragés.
C'est pas sûr. Hein.
En Égypte, ils avaient pas le choix.
C'est pas sûr.
Ils ont vu des miracles, mais c'est pas
pour te dire, voilà, pour te dire. Oui. Si même avec les miracles, ils sont pas sortis, c'est que
donc
c'était
c'est
vraiment,
pas sûr que si on
d'accord.
Un
quart, on c'est les Vénézuéliens, c'est les
Vénézuéliens. Non, non,
non. Un niveau.
Là, on a filtré. Non, 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 non.
Si, c'était un niveau très bas.
Avant de recevoir l'étape,
par exemple, ils mettent des serpents pour quoi?
En Égypte, on était.
Ah oui, je parle en Égypte.
Alors quand ils ont fait le veau d'or, c'est pas sorti d'Égypte, c'est quand ils étaient au plus.
Si, ça venait de sortir.
Non, non, ils étaient au top.
Dieu.
Là,
on venait de sortir.
Il nous a mordu exprès.
Dieu n'enlève pas le libre arbitre à une personne.
Avant le Vaudor, ils étaient au top.
C'est vrai, tu as raison. Il y a des gens qu'avec les grands effets spéciaux, d'accord, bon, ça peut marcher.
Côté, hein. Je critique pas, mais
imagine-toi, regarde. Ils ont fait passer une loi maintenant en France. D'accord, une loi Chamichemort. D'accord. D'accord. La loi du mariage. D'accord.
C'est pas à mon poste.
Imagine-toi s'il y avait eu un message qui vient de Dieu, il y avait un Moïse qui était venu, qui avait dit, d'accord, qui avait dit, si vous faites passer la loi. Toutes les eaux de l'Élysée se transformeront, même pas de toute la France, toutes les eaux de l'Élysée se transformeront en sang. Il y a pas, il y a un truc là-bas, il y a un lac, d'accord? Imagine-toi qu'il passe la loi et pac! Les caméras du monde sont rivées sur le petit lac qui est là-bas, et pac! Il se transforme en sang. Mais attends, il y a chez Elohim, il y a un dieu.
Non, ils vont dire qu'il y avait des effets spéciaux,
ouais,
il y a de la truande et tout. C'est clair. Ouais, c'est
bien.
Ils croiront pas.
Tu comprends? Mais là, il n'y a pas tout ça. Ça veut dire que, celui qui veut pas croire, il peut ne pas croire. Alors d'ailleurs, il y a une histoire que j'ai entendue hier. Qu'une fois, j'ai entendu cette histoire dans un enregistrement d'un chiour d'un docteur. Le docteur l'a raconté comme ça. Il a dit une fois, il y a un juif qui a fait beaucoup d'avérants anticipés sur terre, qui arrive en haut. Il arrive en haut, et quand il arrive en haut, première chose, donc directement, on veut l'amener au Guéhinnom et tout, les gros moyens. Il dit, je bouge pas d'ici, je veux parler avec Dieu. Alors je dis, tu veux parler avec Dieu, mais attends, Dieu on lui parle pas comme ça. Dieu,
même ici, hein.
Dieu c'est après du temps. Il faut d'abord que tu entends un petit peu avant de parler avec Dieu. Il dit non, non, je veux rien savoir, je veux parler avec Dieu. Amenez-moi les supérieurs. Alors finalement on arrive à amener les supérieurs, etc. À la fin il y a Dieu qui entend, il dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit ben il y a quelqu'un qui veut te parler directement. Il dit pas de problème, amenez-le. Oui, pas de problème. Alors on l'amène, il vient devant un Kadosh Baruch Hu. Et il arrive à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui t'amène, où est le problème? Il lui dit, j'ai un problème. Il lui dit, c'est bien beau maintenant, on veut m'accuser toute la vérote. Mais Dieu, où tu étais en bas? Je t'ai pas vu. J'arrêtais pas de te chercher, j'avais des galères, je t'ai pas vu. Alors, qu'est-ce que tu viens maintenant? C'est bien beau de me punir en haut, mais en bas, je t'ai pas vu. C'est en bas qu'il fallait être là. En haut, j'ai pas besoin de toi, c'est en bas que j'avais besoin de toi. Alors, Kadosh Baruch Hu dit, ah bon, tu m'as pas vu en bas? Viens avec moi, on va revoir le film de ta vie. Et il lui remonte le film de sa vie. Et l'histoire raconte comme ça, enfin c'est une parabole. Mmh. Elle raconte que il voit à chaque fois, il est en train de marcher
le long de la mer.
D'accord. Donc il y a ses pas, on voit ses pas. Vous savez, les pas quand on marche le long de la mer. Et il voit des pas devant lui, des traces de pas devant lui et des traces de pas derrière lui. Mais il y a personne qui marche devant et derrière lui. Alors il regarde et ça l'intrigue. Il dit mais c'est qui les pas là? Il y a personne. J'arrête pas de marcher et plus je marche et je vois des nouveaux pas qui se font devant moi et des pas derrière moi. Mais il y a personne. D'où c'est pas? Alors quand je lui dis bah c'est moi. C'est moi qui te préparais la route. D'accord? Mais ça change pas que concrètement, Kadosh Baruch Hu a accepté de lui accorder les circonstances atténuantes parce qu'il a dit, c'est vrai que ce juif, il avait une tarana, il avait un argument qui était logique, il a dit, je ne vois pas Kadosh Baruch Hu. Donc puisque je ne le vois pas, c'est très compliqué de suivre quelque chose qu'on ne voit pas. Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. C'est le réveil d'en bas.
Ça, voilà, moi je vais garder.
Est-ce que ça fait du
résultat? C'est un bon avocat, celui-là.
Il faut le graver.
Non, mais il est pas bête. D'accord. J'ai pas dit qu'il a pas été nettoyé. On l'a envoyé en séance et nettoyage. J'ai pas le choix. Il faut passer au pressing.
Non, mais ça va, hein? S'il est passé au Karcher, c'est pas la fin du monde.
Ouais. Voilà. Il faut, mais le, il y a Karcher et Karcher.
Karcher,
c'est ça.
Mais c'est pas grave. Mais au moins, Kadosh Baruch Hu lui a dit, d'accord, le message qu'il lui a dit, je sais plus, c'est un message de qui, ça. La réponse de que Dieu lui a dit, j'étais là. Il lui a montré. Il a montré, tu vois, là, juste avant que tu passes ici, toi, t'es passé, t'as cru de rien n'était, comme si que tout s'est bien passé. Mais avant, j'ai préparé ça et ça, parce que sinon, tu serais cassé la figure. Et après, derrière toi aussi, j'ai réparé, parce que sinon, on serait vite attaqué par derrière. Mais nous, on se rend pas compte dans notre vie de tout ça. C'est ça le piège. C'est qu'on se rend pas compte.
T'as oublié le petit bout de l'histoire.
Ah non, ouais. Moi, l'histoire s'arrête là.
Non, bah, à un moment, il lui fait, et là, regarde, il n'y a plus qu'une paire de pas. Où sont les autres? T'étais plus là? Et il lui dit, si, j'étais là, mais là, tu as pleuré, je t'ai pris dans mes bras.
Ah, ça, je ne sais pas dans les
mains. Ah, elle est comme ça, elle est belle. Moi, elle m'avait ému.
Donc.
Il n'y a pas personne, tout le monde pleure.
Oui, c'est pas grave. Ce que je vais expliquer ici par là, c'est que c'est pas grave, ça prend du temps. C'est pas grave. Vezeu lefanav yehaler. On finit avec ça. Donc je suis 4 lignes avant la fin de la lettre. Allez, comme ça on finit dans les mots. Ça, on finit avec ça, Igaret HaKodesh. Les 32 lettres de Igaret HaKodesh. Et après, on va dire un bon Lechaim David. Vezeu lefanav yaler shemolich umamshir panim ha'elyonim milmala me'atzilut ad olam ha'asiya. Donc c'est ça quand on dit que tzedek, pas tzedaka, tzedek, tzedek, c'est la justice, c'est au masculin ou au féminin? Tzedaka, c'est au féminin. Mais là on parle de tzedek, le tzedek c'est quoi? C'est au masculin, c'est-à-dire quand la personne devient, Michael, autonome, d'accord? Quand il devient actif.
Il maîtrise.
Quoi? Il maîtrise. Il maîtrise. Alors, donc, chez Molir, Momshir, Panimil, Malamatilu de la Massia, Vekaet, El Tliktor, Vechol, Touvmem, Loïbatser, et donc, enfin, l'Admorazakin finit la lettre en disant qu'il souhaite au Chassidim que s'il se comporte comme ça de devenir autonome, que Akadash Brou leur accorde tout le bien du monde, et que aucun bien du monde ne leur soit privé. C'est pas seulement ça. En général, on dit que Dieu t'accorde tout le bien du monde. Là, il va plus loin que ça. Il dit qu'aucun bien du monde ne te soit privé. C'est-à-dire que tout ce que tu voudras et qui est pourtant bien, tu l'auras. Et t'y vas Hachem, la Tovim, Velishari, Belibotam, et que Dieu à Kadosh Baruch Hu donne la possibilité à ceux qui n'ont pas de quoi donner, la possibilité de donner, qu'un nefesh idrechenu, et le plus important, c'est qu'un nefesh idrechenu, c'est que l'âme doit vouloir le faire, et ça, c'est la kavana, c'est le plus important. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la fin de la lettre, d'accord? Dans laquelle on voit que l'Admor HaZaken, ici, il insiste beaucoup sur le fait qu'on devienne progressivement, autonome.
Si tout le monde a possibilité de donner, à qui on va donner?
T'es loin.
Honnêtement, on a parlé de la tzedaka parce que techniquement c'était une lettre pour la tzedaka, mais moi quand je lis cette lettre, je vois pas spécialement la tzedaka. C'est un concept général.
Non, le but c'est d'arriver à être
autonome. Quand on est autonome, d'avoir le réveil du bas, d'être autonome. Ça prend du temps, c'est pas grave.
Savoir donner.
On comprend pourquoi il veut absolument mettre sur le tzedaka, c'est par rapport à l'époque.
Non, parce que ça c'est des lettres qu'il a envoyées. Donc nous, ça c'est toutes les lettres de Admor HaZaken ici, oui, les Igaret HaKodesh, les 100 pages de lettres qu'on a fait, parce que ça fait 100 pages quand même, hein. 202 on a commencé, voilà, 202 à 304. Les 100 pages de lettres qu'on a fait, c'était des divrei Torah qui étaient dans des lettres qu'il envoyait au Chassidim, dans lesquelles il les adressait pour l'adresser des demandes de tzedaka, ou des encouragements pour le minyan, ou des encouragements pour le divrei Torah. Et donc, chaque fois qu'il envoyait une lettre, il mettait un Dvar Torah. Et donc, de ces divrei Torah, on a récupéré ce qu'on appelle les lettres de l'Admor HaZaken.
Et pourquoi tu ne fais pas la suite alors?
On va faire la suite.
Je crois que tu allais reprendre.
Non, doucement. On a dit à la rentrée, on reprend.
Ah donc, d'accord.
On continue.
On le contraste un peu.
En fait,
à la rentrée, on va recommencer une série. Très intéressante,
Dvar HaShem. Le 8 av au soir, c'est un lundi. Hein.
Oui, Tisha B'Av, on ne pourra pas. La rentrée, c'est en septembre.
Il faut y penser. Hein,
Alors, septembre, en fait, septembre sera Rosh Hashanah tout de suite.
C'est le 4.
Donc, dès qu'on peut, on recommence. À mon avis, peut-être plutôt après les fêtes.
Parce on va partir en vacances en septembre.
Pendant septembre, je pense qu'on fera des choses sur les fêtes, sur la Teshuvah, etc. Et après les Chagim, Bezrat Hashem, on attaque.
On a pas.
Non.
Ah bon?
Ah non, c'est...
Ah, tu dis qu'on a terminé la lettre et qu'on remonte septembre.
Non, j'ai dit qu'on termine cette lettre, mais il y a de la suite encore. On a terminé avec ça la dernière section, la dernière lettre de la section de Igaret HaKodesh. Mais il y a une autre petite section qui suit juste après. D'accord. Mais on fera Bezrat Hashem aussi en juillet, pour ceux qui sont là, d'accord. Et après, à la rentrée, on fera des choses autour des fêtes et de la Teshuvah. Donc la Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour et autour des fêtes. Et après Bezrat Hashem, après les fêtes, on attaque depuis le début du Tanya. Voilà, Bezrat Hashem.
Okay. On va faire un peu le contraste à Aaron.